Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut, c'est Thomas Rozek. Il y a quelques jours, le 1er décembre précisément, avait lieu la journée internationale de lutte contre le sida. Et peut-être que vous n'en avez même pas entendu parler, parce que oui, la maladie a un peu disparu de nos radars médiatiques. Ça peut paraître étrange pour les gens comme moi qui sont nés dans les années 80 et sont entrés dans la sexualité baignés dans un discours de prévention très fort, mais c'est un fait. Ça nous paraît presque surprenant lorsque le sujet arrive sur la table en dehors des événements officiels, comme lorsqu'Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, a annoncé la semaine passée le remboursement de certains préservatifs sur prescription médicale. Ça nous a poussé à nous interroger. Où en est-on de la prévention, de la lutte contre le VIH? Les capotes remboursées, est-ce que c'est vraiment suffisant? Qu'est-ce qu'il faudrait faire en plus pour qu'on ait enfin une bonne raison d'arrêter de parler du sida? Ce sera notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B. Et pour cet épisode, je vous propose de me suivre dans les rues de Paris. Alors non pas que j'ai cédé à la tentation du micro-trottoir, mais il se trouve que je suis allé à la rencontre de différents acteurs de la lutte contre le sida, qui sont nombreux. Ils n'ont pas tous le même point de vue sur les moyens à employer pour venir à bout de l'épidémie. Première étape, l'hôpital Saint-Louis, où m'attend le professeur Jean-Michel Molina. C'est le chef du service des maladies infectieuses et tropicales. Et il est aux premières loges des avancées d'une petite révolution dans le monde du VIH. Ça s'appelle la PrEP, et je le laisse vous expliquer ce que c'est.
La PrEP, c'est un nouveau moyen de prévention contre le virus du sida, qui a montré une efficacité qui est du même ordre que celle du préservatif. Il faut rappeler que le sida, aujourd'hui, est une maladie qui est toujours présente, qui continue à tuer des gens jeunes, qui, malheureusement, ont pris dans leur vie un risque, à un moment donné, parce qu'ils ont mal ou pas utilisé de préservatif. Chaque année en France, on diagnostique malheureusement plus de 6000 nouveaux cas d'infection par le virus VIH qui peut donner donc le sida. Il est donc très important de rappeler que cette maladie est toujours présente, que l'épidémie en France n'est pas contrôlée et qu'il faut améliorer absolument la prévention contre cette infection. Donc il y a deux moyens pour se protéger aujourd'hui du virus du sida. Le plus simple, celui que tout le monde connaît bien, c'est le préservatif. Et ce préservatif, comme vous le savez peut-être, va pouvoir être remboursé maintenant sur prescription médicale à partir de la mi-décembre. Ce qui fait qu'on essaye de lever tous les freins à son utilisation, parce que le préservatif va permettre à la fois de se protéger contre le virus du sida, mais aussi contre les autres maladies sexuellement transmissibles. Mais malheureusement, c'est insuffisant, car on se rend compte que malgré un accès assez simple, malgré tout en France, au préservatif, y compris à des préservatifs gratuits, eh bien le préservatif n'est pas assez utilisé, ou en tout cas pas systématiquement utilisé. Et pour combler un petit peu ce problème, eh bien a été mis en place depuis maintenant 2 ans et demi en France, ce qu'on appelle la PrEP. Et la PrEP, c'est donc détourner les médicaments qu'on utilise pour traiter les personnes infectées par le VIH, pour les utiliser chez des personnes qui sont séronégatives, qui ne sont donc pas infectées, mais qui sont à risque de le devenir. Il faut rappeler que ce procédé qu'on appelle la PrEP a été mis au point par, en particulier, des équipes françaises, soutenues par l'Agence nationale de recherche sur le sida. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous pouvez aller voir votre médecin de façon à ce qu'il puisse vous prescrire ce traitement. Alors au départ, il vaut mieux aller dans un service spécialisé ou bien dans un centre de santé sexuelle, mais votre médecin traitant peut tout à fait renouveler ce traitement. Ce traitement, donc, comme je l'ai dit, c'est la combinaison de 2 molécules, 2 antiviraux, qui se présentent sous la forme d'un seul comprimé, qui est disponible aujourd'hui sous la forme de générique. Et ce comprimé, vous pouvez le prendre soit tous les jours comme une contraception chez la femme, soit uniquement au moment des rapports à risque, en les prenant avant et après les rapports. Ce qui fait qu'avec la PrEP, on est venu compléter nos outils de prévention par rapport aux seuls préservatifs qui existaient aujourd'hui. Et on espère que, grâce à l'utilisation plus large du préservatif et de la PrEP, on va arriver, enfin peut-être, à contrôler cette épidémie en France. Alors la PrEP, ce n'est pas utilisé qu'en France d'ailleurs, c'est utilisé dans l'ensemble du monde. Aujourd'hui, la preuve de l'efficacité de la PrEP est évidente. Et donc, il n'y a plus à faire cette démonstration d'efficacité. C'est la raison pour laquelle l'OMS recommande l'utilisation de la PrEP dans tous les pays du monde aujourd'hui. En France, on a la chance d'avoir un accès simple à cette PrEP. Mais pour que cette PrEP puisse, comme le préservatif d'ailleurs, conduire à un contrôle de l'épidémie, il faut qu'il soit utilisé plus souvent par les personnes qui ont des risques.
Quand on dit... C'est qui ces personnes, justement ?
Alors, ce sont des personnes qui n'utilisent pas régulièrement le préservatif, ou bien dont le partenaire n'utilise pas régulièrement le préservatif, et qui ont des partenaires multiples, qui peuvent eux-mêmes être contaminés par le virus du sida. Si on regarde qui sont en France les personnes qui sont le plus touchées par l'épidémie, ce sont les hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes et des femmes qui viennent de pays de forte endémie du VIH, notamment d'Afrique subsaharienne, d'Amérique du Sud, d'Asie du Sud-Est, mais aussi des hommes et des femmes, plus rarement hétérosexuels nés en France, ou des gens qui utilisent des drogues par voie intraveineuse. Donc toutes ces personnes-là peuvent à différents degrés être susceptibles de contracter ou de transmettre le virus du sida. Et donc si on a des rapports sexuels avec ce type de personnes, eh bien il est très important de se protéger en mettant le préservatif, se protéger si on ne veut pas ou on ne peut pas, où le partenaire ne met pas le préservatif, eh bien, on a un nouvel outil maintenant qui est la PrEP, qui peut d'ailleurs être utilisé en complément du préservatif, de façon à se protéger complètement contre le virus du sida et contre les autres infections sexuellement transmissibles. C'est comme le risque d'accident quand vous conduisez votre voiture, c'est d'avoir l'airbag et la ceinture de sécurité. Donc, en multipliant les protections, vous réduisez considérablement votre risque. Grâce à l'Agence nationale de recherche sur le sida, nous avons actuellement un projet sur la région Île-de-France, qui s'appelle ANRS Prévenir, qui vise à démontrer justement l'impact en santé publique de la large utilisation du préservatif de la PrEP chez les populations à risque. Sur les plus de 2000 personnes qui participent aujourd'hui à ce programme, aucune n'a été contaminée par le virus du sida, heureusement. Et on estime qu'en France, aujourd'hui, il y a plus de 10 000 personnes qui utilisent la PrEP déjà. On souhaite que ce nombre continue d'augmenter, ainsi que le nombre de gens qui prennent le préservatif, d'ailleurs, pour qu'on arrive à enrayer cette épidémie, ce qu'on devrait être capable de faire. Alors, il y a d'autres outils également qui peuvent être utilisés en complément de ces deux-là. C'est de renforcer le dépistage contre le virus du sida. Parce que si on est infecté, il faut être traité. Et on sait qu'en étant traité, efficacement maintenant, on peut réduire, voire annuler, le risque de transmettre le virus à ses partenaires. Si on est dépisté négatif et qu'on est à risque de contamination, bah, c'est le moment de mieux utiliser les moyens de prévention à notre disposition aujourd'hui, le préservatif, la PrEP. Donc, il ne faut pas opposer ces deux moyens. Ils sont complémentaires. Ils peuvent même être utilisés ensemble. Mais ils fournissent aux personnes qui ont du mal avec le tout préservatif de se dire qu'il y a une autre option maintenant disponible, au moins aussi efficace.
Est-ce qu'ils ont été durs à convaincre de passer le pas ? Je parle des premiers qui se sont lancés dans ce programme. Est-ce que ça a été difficile à installer comme idée qu'il fallait du coup prendre ce médicament pour se prévenir justement du risque de contamination ?
Alors on va dire que lorsque nous avons démarré les premières études en France en 2012, oui, ça a été difficile parce qu'on était dans une phase de controverse sur le fait que ce soit efficace ou pas. Maintenant, cette controverse est dépassée, c'est très efficace. Beaucoup plus même qu'on l'imaginait. Et je veux dire que les gens, au contraire, sont très heureux de pouvoir disposer d'un mode de prévention très efficace à côté du préservatif. Donc on est plutôt à faire face à la demande. Et les gens sont ravis parce que pour beaucoup d'entre eux, ils n'ont plus l'angoisse de penser qu'ils auraient pu être contaminés lors de rapports sexuels par ce virus du sida. Ils sont dépistés régulièrement. Ce que nous disent les gens, c'est qu'ils sont sereins et qu'ils ont une vie sexuelle beaucoup plus épanouie. Donc ça, je crois que c'est très satisfaisant. Ce d'autant qu'on vérifie dans la pratique de tous les jours la grande efficacité de cet outil de prévention. Maintenant, il faut également gérer, finalement, les changements de comportement que cela peut induire. Et on a parlé des infections sexuellement transmissibles. Ça fait une dizaine d'années qu'elles augmentent dans la population en France. Il y a différents facteurs à ça. Il serait trop long d'expliquer en détail ce qu'il en est. Je crois qu'avec cette étude Prévenir que nous menons chez des gens qui prennent des risques, on va pouvoir, je l'espère, faire aussi des progrès dans le dépistage, le traitement, la transmission, la prévention des autres infections sexuellement transmissibles.
Direction maintenant le 15e arrondissement de Paris, les bureaux du CRIPS. Le CRIPS, c'est le Centre Régional d'Information et de Prévention du Sida et pour la Santé des Jeunes. Là-bas, je suis allé voir Juliette Macaire, elle est animatrice de prévention. Alors la prévention, ça prend tout un tas de formes, ça passe notamment par des interventions auprès des jeunes. Et donc, j'ai demandé à Juliette de m'expliquer à quoi ça pouvait bien ressembler.
Alors, il y a plusieurs outils. Alors, il y a des outils à base de cartes. Là, il y en a un qui me vient à l'esprit. Plusieurs types de rapports sexuels à base de caresses, s'embrasser, rapport vaginal, rapport anal, fellation, cunnilingus. Enfin, vraiment, tout un tas de types de rapports. Et on propose donc au public qu'on a en face de nous, voilà, allez-y, tirez une carte. Qu'est-ce qui est écrit dessus? Ah, ok, fellation, transmet ou transmet pas, par exemple. Et en fonction de la carte qu'on tire, eh ben, on va rebondir dessus, on va en discuter, etc.
Qu'est-ce que vous constatez auprès des publics que vous rencontrez en termes de connaissance, on va dire, de la maladie, de la manière de se protéger, de s'en prémunir? Est-ce que vous constatez une certaine constance, on va dire, dans la, les bases au moins sont posées, ou est-ce qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de boulot à faire?
Ça dépend des publics, notamment si on est sur public lycéen, lycéenne. Ouais, là, il y a énormément d'idées reçues encore sur typiquement la salive, ouais, embrasser quelqu'un, ouais, là, ça se transmet. Voilà, typiquement, ça revient beaucoup. Et le fameux moustique, ouais.
C'est-à-dire ?
Le fameux moustique qui, lui aussi, apparemment, transmettrait. Ah. Ouais, encore une grosse idée reçue qui reste pas mal ancrée.
J'aimerais bien qu'on parle des autotests rapidement. Est-ce qu'on peut... Peut-être, je pense qu'il y a plein de gens encore qui ne savent pas exactement ce que c'est. Et là, vous en avez un entre les mains, justement. Mmh. Est-ce qu'on peut expliquer ce que c'est, comment ça marche, où est-ce qu'on en trouve, quel est cet autotest, tout simplement?
Ouais, alors, il y a 4 méthodes de dépistage qui existent. Mmh. Donc, il y a celle qui peut se faire dans un centre de dépistage gratuit. Et dans ce centre-là, il y a 2 types. Il y a l'autotest. Donc, en fait, ça va être une... Enfin, l'autotest, là, c'est pas auto soi-même. Du coup, il y a un accompagnement. Mais c'est une piqûre, en fait, sur le doigt. Et en l'espace de 15 minutes, on a un diagnostic. On a un résultat, en effet, qui va devoir être confirmé. Confirmé par une prise de sang. Mais c'est un test qui est fiable, complètement. Donc, on peut aller en centre de dépistage, soit par prise de sang, soit par ce test rapide, qu'on appelle le TROD. Voilà, test rapide d'orientation et de diagnostic. Ce TROD-là, il peut aussi se faire, par exemple, auprès d'associations. Donc, le TROD, dans le centre de dépistage par la prise de sang, une ordonnance par le médecin traitant ou voilà un gynécologue ou quoi, encore une fois par une ordonnance pour aller dans un laboratoire. Ouais. Et le dernier, c'est l'autotest, en effet, là que j'ai dans les mains. L'autotest, c'est au même titre que le TROD, une piqûre sur le doigt avec un diagnostic sur 15 minutes.
On peut le décrire, c'est une petite boîte.
Alors, ouais, il est composé de plusieurs trucs. Donc, il y a une petite aiguille.
Donc c'est une aiguille à l'intérieur. Ouais. C'est, donc là, je décris, parce qu'évidemment, il n'y a pas d'image, mais c'est un petit rectangle rose avec un bout, ouais. Rouge, et au bout, donc, il y a une aiguille.
Ouais, qu'on ne voit pas, parce qu'en fait, c'est pour une prise.
Ouais.
Donc, en fait, pareil, pour que ça soit en sécurité, on va poser un peu, en fait, ce cube en plastique sur son doigt, appuyer pour que l'aiguille sorte, et automatiquement, elle va re-rentrer.
Re-rentrer, ouais.
Voilà, donc on a ce premier...
Geste.
Ouais, ce premier geste avec cet objet. On a une petite pipette où en fait, ça va être, on peut dire un peu comme un thermomètre, grosso modo, qu'on va enfoncer dans un support, et où ce support, il va y avoir, en fait, c'est juste pour bien poser le petit thermomètre. Mais le petit thermomètre, on va aussi l'enfoncer dans... C'est un petit... Bon, là, on l'est déjà enfoncé, mais c'est un... Je sais pas trop comment dire ça. Enfin, un petit réceptacle où il va y avoir un petit liquide dedans. On va enfoncer ce petit thermomètre dans ce petit liquide-là, qu'on va poser dans notre petit support. Il y a une petite pipette qu'on va mettre sur notre goutte.
Sur la goutte de sang.
Sur la goutte de sang de notre doigt. Une fois que ça s'est fait... On le pose dans le support où on va venir enfoncer ce thermomètre-là pour que ça soit réactif, pour nous donner un résultat.
Oui, parce qu'il y a une bandelette dans le ce que vous appeliez le thermomètre.
C'est ça.
Il y a une bandelette et qui, du coup, après, apparaît un peu comme un test de grossesse, j'imagine.
Oui, c'est un peu ça. Deux barres positives. Et une barre négative.
Donc une fois qu'on a fait ça, donc là, on le fait vraiment seul pour le coup, ça doit s'accompagner, j'imagine, d'un être confirmé là aussi par un test plus approfondi.
Ouais, un test prise de sang.
Ouais.
Voilà. Après, en fait, si en effet il y a deux barres donc pour un diagnostic positif réactif, en fait, réactif au virus. En fait, on peut là verbaliser que oui, il y a.
On est potentiellement exposé au VIH.
Exactement, vous avez pris les mots, c'est bien.
Est-ce qu'il a du succès, cet autotest, dans le sens où est-ce qu'il est connu maintenant ? Est-ce qu'il circule ? Est-ce qu'il est utilisé ? Est-ce qu'on le trouve facilement ?
Alors, le trouver facilement, il y a deux choses. Facilement parce que oui, c'est à la pharmacie. Donc, pharmacie, on a de la chance, il y en a un peu partout. Après, pharmacie, du coup, il est payant.
Ouais.
Voilà.
Donc, ça exclut certains publics, forcément.
Bah ouais, clairement, ouais. Après, nous, par exemple, en effet, on peut avoir maintenant les autotests qu'on peut délivrer gratuitement.
Dernière étape de notre balade, le centre LGBT dans le 3e arrondissement. L'association et le centre ont été créés par des militants homosexuels à la fin des années 80, justement suite à l'épidémie de VIH, pour servir de point de rencontre, de parole et d'accueil pour la communauté gay. Je suis allé rencontrer Hervé Latapy, le président du centre, qui lui se réjouit de voir le préservatif revenir dans le discours des autorités.
Toutes ces dernières années, on s'est surtout préoccupé des moyens de prévention biomédicaux et qu'il est temps de revenir au préservatif qui est un des seuls moyens de prévention, ce qu'on appelle la prévention primaire, c'est-à-dire faire quelque chose avant d'être contaminé. Et également, c'est un moyen de prévention à la fois pour le VIH et pour les IST.
Qu'est-ce qui a fait que le préservatif a un peu disparu, on va dire, du discours public, quelque part, ou en tout cas de la place publique ?
Le préservatif a disparu parce que la prévention est devenue un petit peu compliquée à partir du moment où les traitements sont arrivés. Il y a eu aussi, et là je parle essentiellement pour la communauté gay, il y a eu aussi le phénomène de ce qu'on appelait le barbac, c'est-à-dire à partir du moment où les médicaments étaient là, les séropositifs ont commencé à relâcher un peu la prévention. Ils n'allaient plus mourir, ils vont vivre, et ça tout le monde s'en réjouit, et tout d'un coup, du coup, voilà, il y a eu un problème à ce niveau-là qu'on n'a pas très bien compris. Ça, c'était au début des années 2000. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il y a eu les gays, beaucoup, ont commencé à abandonner le préservatif. Quoi. Et c'était compliqué. Et à ce moment-là, comme les médecins ont proposé des moyens médicaux, du coup, on s'en est un petit peu emparé parce que quelque part, c'était plus simple, c'est plus technique. Très concrètement, maintenant, les associations de lutte contre le sida disent quoi ? Disent, ben voilà, on vous donne un traitement. Bon, alors pour les séropos, comme ça vous êtes indétectable. On donne un traitement préventif, on donne un traitement en cas d'urgence, et on dépiste les gens. Tous ces moyens sont médicaux. Et on oublie de dire, ben oui, mais la première chose, ce qu'on a inventé d'une manière fantastique quand le sida est arrivé, le safer sex, on oublie. Et donc, c'est plus devenu à la mode. Et c'est ça le problème. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est important qu'il y ait ce signe avec le préservatif remboursé. C'est pas tant la mesure en elle-même, parce que de toute façon, on donnait aussi des préservatifs, c'est pas très cher, on peut en acheter des très confortables, mais c'est symbolique. Et je pense que c'est très important. Actuellement, les gens qui ne mettent pas le préservatif, C'est pas forcément les migrants, c'est pas forcément les personnes défavorisées. C'est par exemple les gays parisiens qui sont blancs, qui sont plutôt riches et tout. Donc il faut pas se tromper de public. Ouais. Actuellement, la culture du safer sex dans la communauté gay a été oubliée et on a oublié l'histoire et les jeunes ne sont plus éduqués à cela, quoi. Et c'est pour ça que les 81% des syphilis en France sont des homosexuels. 45% des contaminations au VIH, 80% des syphilis. Les gonocoques n'arrêtent pas d'augmenter. Donc non, il faut arrêter. Il faut dire, il y a une culture sexuelle que les gays s'étaient appropriés collectivement à partir des années 80 et dans les années 90, qui était le safer sex, qui était la liberté sexuelle. On veut la conserver, mais on va se protéger pour la conserver. Ça a été abandonné. Ça a été abandonné avec les discours médicaux, avec cet abandon de ce qu'on appelle la prévention comportementale. Il faut dire aux gens, bah oui, faut mettre un préservatif. Et alors, ce qu'on oublie de dire, entre parenthèses, pour le préservatif, c'est que oui, mais les gens qui ont des problèmes avec le préservatif, 80% des problèmes avec le préservatif, c'est des problèmes d'érection. Donc voilà, il ne faut pas se tromper de sujet. Il s'agit de sexualité, il ne s'agit pas de médecine, quoi. Est-ce qu'on veut médicaliser la sexualité au point de qu'elle dépende totalement des médicaments? Non, on est obligé, c'est comme ça, on n'a pas le choix. À chaque fois dans l'histoire où il y a eu une sexualité un peu, par exemple pendant les guerres, c'est pas une situation normale, il y a une explosion des IST. Et ça débouche toujours après sur une catastrophe avec les IST. Il faut donc faire attention. C'est pas si compliqué que ça.
Vous le ressentez sur le terrain quand vous échangez avec la communauté homosexuelle, qu'il y a toujours ce frein autour du safer sex, que ça peine à revenir dans les comportements.
Dans les comportements, sur le terrain, il n'y a pas une hostilité. C'est faux, ça.
C'est plus une méconnaissance.
C'est plus une culture qui est véhiculée sur les réseaux sociaux, qui est véhiculée dans certains groupes, que réellement dans l'ensemble de la communauté. Les gens sont très préoccupés. Aujourd'hui, avec les IST, ils en ont ras-le-bol de retourner sans arrêt chez le médecin, d'être sans arrêt sous antibiotiques. Et il y a un retournement qui est en train de s'effectuer. Et je pense que la déclaration de la ministre, c'est parce qu'il y a un retournement. Et elle l'a compris. Et ça, c'est très bien qu'elle l'ait compris, quoi.
Est-ce que c'est simple pour les associations ou pour le monde associatif, on va dire, d'avoir accès à des ressources, justement, des préservatifs à distribuer, ce genre de choses? Est-ce que les pouvoirs publics font suffisamment pour accompagner les acteurs sur le terrain?
Alors, jusqu'à ces toutes dernières années, on avait, je prends l'exemple du centre, on avait des livraisons de préservatifs régulièrement, donc on n'avait pas de problème d'approvisionnement. Alors, je ne sais pas là, ce qui se passe, mais cette année-là, depuis 6 mois, on ne reçoit plus de préservatifs. L'Agence régionale de santé, elle est en panne à Paris, je ne sais pas, ils ont perdu un stock, je ne sais pas ce qui se passe, mais sinon... On peut se procurer des préservatifs, on en distribue gratuitement. Les établissements gays, ils ont également une coopérative, ils en achètent pas du tout cher et c'est distribué. Donc non, c'est pas une question économique, il faut pas exagérer. Les gens viennent dans un bar, ils vont payer une consommation 6 euros. Non, les préservatifs, c'est pas cher, on peut s'acheter des préservatifs confortables pour pas cher. C'est pas vraiment une question de coût, quoi. Quand on voit, je crois que c'est en 2015, qu'il y avait une grande association de lutte contre le sida qui présentait à la Gay Pride un préservatif qui était fendu et on voyait apparaître un comprimé, avec la symbolique, on a un comprimé qui vient, qui remplace le préservatif. Il y a eu une campagne de marketing qui a été effectuée ces dernières années en France pour promouvoir essentiellement la PrEP. Moi, j'ai rien contre la PrEP limitée aux gens qui en ont besoin. Le problème, c'est qu'il faut que ce soit équilibré, la prévention. Les personnes spécifiques qui ont des problèmes avec le préservatif, etc., qu'on les aide avec la PrEP, mais avec la PrEP, il faut aussi se protéger des IST. Donc, oui, on ne résout rien, on ne résout pas totalement le problème. Mais il faut rééquilibrer. Les campagnes sur le préservatif, il n'y en a plus. Depuis combien de temps? Alors que dans les années 90, on a fait des campagnes qui étaient érotiques, qui étaient, voilà, sur la capote plaisir. Moi, je fais des animations, là, je vais aller faire dans un lycée de banlieue bientôt. Ça s'appelle Shopping Capote. Et je leur montre, voilà, comment faire avec la capote, comme pour la mode. Trouver celle qui vous va bien. Et quand on en trouve une qui va bien, quand on a la bonne taille, on a une texture qui est intéressante, qu'on la met correctement, Évidemment, il faut avoir l'érection, ça c'est le problème pour ces messieurs, et voilà, et c'est confortable, et je vous assure qu'on a du plaisir tranquille, et on est tranquille, quoi.
Qu'est-ce qui manque dans la politique publique, on va dire de manière générale, pour, comme outil de lutte concrètement contre le VIH, les IST, contre les maladies sexuellement transmissibles? Est-ce qu'il y a quelque chose qui, selon vous, manque dans ce qui est disponible actuellement?
Moi, ce que je constate sur la politique, enfin les communications qui sont faites auprès des gays actuellement depuis pas mal d'années, par Santé publique France, par Paris sans Sida, c'est fait par des technocrates. C'est fait par des agences de communication. Et finalement, ça n'est plus fait comme autrefois par des gens du terrain. Oui. C'est-à-dire que nous, ici, on a essayé de faire des choses. On a fait des choses très intéressantes. On a fait des brochures formidables et tout. Mais voilà, on n'a pas eu les financements. Nous, on n'est pas écoutés. On est soi-disant... On préfère faire appel à des grosses agences de publicité qu'on paye des fortunes. Franchement, on paye des fortunes. Moi, on me donnerait un dixième de ce qu'on leur donne. On préfère faire des essais. On a fait un essai sur la PrEP hyper gay qui a coûté 12 millions d'euros. Que de faire confiance simplement aux gens de terrain. Or, au début du sida, c'était comme ça que ça s'est passé. Mmh. Parce que je peux vous dire que les premiers SIDAction, donc c'était, vous voyez, 93-94, on présentait des projets, SIDAction nous donnait de l'argent, et on faisait des choses qui venaient de la base. Et finalement, les gens concernés sont plus capables de se parler entre eux que maintenant ces gens qui sont dans des bureaux, dans des tours, qui sont payés des fortunes pour penser, réfléchir. Et finalement, là, il y a un problème. Alors, ça fait un peu populiste de dire ça. Mais voilà, c'est encore un exemple où, moi, je dis, la fidacratie, c'est un milieu qui vit entre eux, qui sont entre eux, qui ne supportent pas les critiques, qui sont engagés dans des politiques complètement, je dirais, idéologiques, au lieu de s'occuper des gens. Nous, ici, on s'occupe des gens. Et c'est comme ça qu'on peut les amener à avoir une sexualité plus safe, tout simplement.
Et derrière la question du sida et des moyens de lutte, il y a, comme le soulignait Hervé Latapy, le risque d'une épidémie invisible pour l'instant, celle des IST en pleine recrudescence en France et qui méritent elles aussi un grand plan de sensibilisation. Merci à Jean-Michel Molina, à Juliette Macaire, à Hervé Latapy pour leurs réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lorraine Bess et réalisé par Vincent Hiver. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préférée pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter et consorts pour nous interpeller. Programme B @binge.audio pour nous écrire. Et à demain pour un nouvel épisode.